Voilà, bon après-midi toutes et tous. Je vais te raconter un peu l'histoire oubliée qui est peut-être à réinventer. C'est l'Église et la pastorale du sport au 19e et 20e siècle en Belgique et un peu les pays voisins. Quand on examine en Belgique, donc d'abord peut-être la structure que je vais montrer, donc je vais. Introduction, l'origine de l'évolution du réseau sportif catholique en Belgique, la pastorale du sport spéciale par les Norbertins de l'abbaye de Thomerloo, donc toujours en Belgique, et après, conclusion et défi. Quand on examine en Belgique la pastorale du sport actuelle, il semble y avoir très peu d'activités. L'Église catholique belge ne semble pas donner suite aux documents récents du Saint-Siège concernant le sport, donc donner le meilleur de soi-même en 2018, le sport pour tous 2022, et aussi encore avec le jubilé cette année-ci. Seulement au diocèse de Bruges, on a un diacre de 75 ans, responsable pour la pastorale du sport, et organise donc chaque année en février un pèlerinage sportif où on commémore les sportifs défunts et où on bénit les sportifs présents après la messe, tandis que le Norbertin Herman de Mulder, aujourd'hui âgé de 93 ans, n'a toujours pas de successeur officiel en tant qu'aumônier général de Sporta, abréviation de Sport Apostolat, donc apostolat du sport. Dans la partie francophone de la Belgique, il n'y a plus aucune activité depuis la dernière édition du pèlerinage des sportifs à Chèvremont, il y a 13 ans. Pourtant, une nouvelle génération de sportifs belges exprime ouvertement sa foi chrétienne ou en plus son besoin d'une pastorale du sport. En foot, Romelu Lukaku lise les psaumes de la Bible avant chaque match. Donc, quand je pars quelque part et j'oublie ma Bible, je me sens mal. C'est là que je puise ma force. Hier, donc c'est pas hier, c'est dans l'article, Lukaku avait notamment lu le psaume 9.1. Il parle de la protection de Dieu et du fait qu'il ne faut pas suivre la voie du mal et qu'il faut rester fidèle à Dieu malgré tout ce qui arrive. Un autre joueur de foot, Jeremy Doku, s'est récemment fait baptiser. Donc, mais c'est plutôt comme protestant. Pour l'international belge, se faire baptiser, c'est comme ressusciter avec Dieu, avec Jésus-Christ. Tu peux le faire autant étant enfant, mais normalement c'est prévu quand tu es plus âgé et que tu réalises vraiment ce que tu fais. C'est donc ce que je vais accomplir aujourd'hui. En cyclisme, on a un nouveau Poulie d'or, on pourrait dire, c'est notre Remco Evenepoel, qui trouve la paix en priant avec son épouse musulmane. Plus que jamais, on voit donc des signes ou des gestes d'inspiration religieuse sur nos terrains de foot et nos pistes d'athlétisme. Je vais citer la prière, ce que dit Evenepoel. La prière est quelque chose d'unique que nous partageons ensemble. C'est tout simplement un moment très agréable à passer ensemble. Cela vous apporte également une certaine sérénité. Vous permet d'accepter plus facilement les choses. Tout cela m'a permis de trouver une plus grande paix intérieure. Je gère désormais tout avec plus de calme après une période assez mouvementée. Cela me donne une force et une motivation supplémentaires. Demander certaines choses, par exemple, et simplement veiller à ce que tout reste stable, c'est un bon repère pour traverser la journée. Donc, plus que jamais, on voit des signes ou des gestes d'inspiration religieuse chez nos sportifs. Comme le jubilé du monde du sport qui se tenait à Rome le 14 et 15 juin de cette année l'a bien montré, Le sport est toujours un terrain d'évangélisation aussi en Belgique. Il est vrai que depuis les années 1980, une vague croissante de sécularisation a eu pour effet d'absorber les associations, les fédérations sportives ouvertement ou d'inspiration catholique dans des fusions neutres, tandis que d'autres associations comme Sporta des Norbertins semblent avoir oublié leur origine catholique. D'où cette contradiction et manque d'engagement, on pourrait dire, par l'Église belge. Et comment l'Église belge, et c'est aussi naturellement les laïcs, au cas où elle se sentirait appelée à le faire, pourrait s'engager de nouveau, sachant qu'elle a bien connu pendant les 19e et 20e siècles une pastorale de sport active. Donc la présente intervention vise à rechercher l'origine et l'évolution de ce réseau sportif catholique pratiquement disparu de la Belgique et y discerner les initiatives exemplaires avec quelques comparaisons avec la situation aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Espérons que cet aperçu historique inspirera l'Église belge à renouveler son engagement dans le domaine de la pastorale sportive. Maintenant, je vais parler de l'origine et l'évolution du réseau sportif catholique en Belgique. Donc, plus qu'elle fait ou fit pour la gymnastique, l'Église en Belgique se sentait obligée de réagir face aux nouvelles disciplines sportives venant de l'Angleterre et des États-Unis au cours du 19e siècle. Naquit ainsi une culture physique catholique sportive basée sur les piliers que sont le patronat, les établissements d'enseignement et les associations sportives. Les exemples sont légion. En 1907, l'abbé Philippe-Christine de Rebeaucourt et Francis Dessins ont fondé l'Union métropolitaine à Malines avec pour objectif la Coupe des collèges catholiques du cardinal Mercier. Toutes sortes de développements ultérieurs aboutirent à la naissance en 1932 de la Fédération sportive catholique. Son grand animateur en fut l'abbé Blocco, qui participa aussi à la création de la JOC et du HIRO, c'est l'équivalent flamand du patro. Des religieux furent très actifs dans le monde du foot des collèges catholiques. Le collège Joséphite de Mel, tout près de Gand, en fut la Mecque, tandis que les jésuites de Liège furent à l'origine du club de football du Standard et les frères Xavériens de Bruges du Cercle de Bruges. Mais aussi les ordres missionnaires exportèrent l'initiative sportive catholique. Cela conduisit notamment au Congo belge à la construction de complexes sportifs, des stades de foot, des bassins de natation, des cours de tennis et des pistes cyclables, dont l'actuel Kinshasa par les pères de Skeut, avec Raphaël de la Quétule de Riove comme le fer de lance, et les frères des écoles chrétiennes, et à Lubumbashi par les bénédictins de Bruges-Saint-André. Dans le monde de l'éducation et du sport, une séparation stricte existait entre garçons et filles. Le sport ne faisait ainsi que s'adapter aux sensibilités en matière de morale, d'éducation, de différence entre les genres. L'opposition, ou en tout cas le peu attention accordée aux filles et aux dames sportives, prévalut longtemps dans le monde catholique, mais aussi ailleurs. Il fallut plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale pour que les différences s'effacent et que les filles puissent sortir du local de gymnastique et faire du sport à l'extérieur. Dans l'entre-deux-guerres, un Norbertin de l'abbaye de Tongrelos, Antoine Van Clee, entama un remarquable apostolat du sport parmi les coureurs cyclistes professionnels, les boxeurs et les catcheurs souvent oubliés. On y reviendra. En 1940, le cardinal Van Rooy inaugura l'Institut sportif de Louvain. C'est un peu en conséquence de Pie XI qui, en 1929, disait que le monde catholique devait organiser ses propres éducations physiques. Ce fut en même temps le signal de départ des cours de médecine du sport et le lancement d'une licence en éducation physique, sport et gymnastique à Leuven en 1942. Après la scission, on a naturellement aussi la faculté des sciences de la motricité à Louvain-la-Neuve. On dit pour Leuven, et c'est une blague, nous sommes Louvain-la-Veuve. Hein, voilà. Les autres sont les Louvain-la-Neuve. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement d'un réseau catholique d'enseignement d'éducation physique se poursuivit. En 1949, naquit la Fédération nationale sportive de l'enseignement libre. Au début, ses activités se limitaient au foot et l'athlétisme, mais peu à peu l'intérêt grandit pour d'autres branches sportives telles que le basket, le volley, l'escrime, la natation, tennis de table, le judo et le handball. À partir de 1966, le paysage de la société, mais aussi paysage du sport, qui est le miroir de la société, se transforma en Belgique et aussi dans le monde catholique, vu le contexte des subsides politiques et de la déconfessionnalisation. Cela força certaines organisations sportives d'inspiration catholique à rejoindre un plus grand ensemble neutre. De même, l'organisation du sport dans les écoles secondaires catholiques n'échappa pas aux lois du temps. Le FNSEL unitaire fut scindé en 1972 et en 1984, la coupole nationale fut dissoute et les deux fédérations sportives des écoles catholiques prirent des voies différentes, dont le FNSEL, donc en Wallonie, devenu la Fédération royale sportive de l'enseignement libre, est encore bien active au sein de la Fédération internationale catholique d'éducation physique et sportive, connue sous le FICEP. Maintenant, on va nous diriger vers Tongerlo et nous souhaitons dans cette partie donner un aperçu plus détaillé de l'apostolat du sport dans lequel plusieurs prémontrés de l'abbaye de Tongerlo, dans la province de Anvers, se sont engagés par le biais de Sporta depuis ses débuts en 1936 avec Van Klee, mais comme association depuis 1943 jusqu'en 2017, année où l'Assemblée générale de la Fédération Sporta ASBL a accepté la démission de son aumônier en chef, le prémontré Herman de Mulder, qui vit toujours et qui a 93 ans, en tant que membre de sa direction. Naturellement, un aperçu historique fait sous-entendre qu'on doit bien étudier et comprendre les méthodes de ce apostolat sportif dans le temps et au contexte, entre autres, de la doctrine en vigueur de l'Église catholique. Ce que un père dit en 1936 ne vaut plus quand on parle de 2017, hein, par exemple. Donc le premier, c'est, mais j'ai déjà dit cela, le premier ici, tu le vois en blanc, c'est Anton Van Klee. Anton Van Klee doit être situé dans le contexte d'une image de l'Église qui s'est surtout développée dans les années 30 du XXe siècle, à savoir le modèle de l'Église comme corps mystique du Christ. Le Norbertin, à l'esprit social, mettra toujours l'accent sur l'unité des croyants dans l'Église et avec le Christ, ainsi que sur l'expérience intérieure de cette unité. En même temps, le même Van Klee est un représentant typique de la liturgie de l'abbaye de Tongerlo des années 1930 qui recherchait l'expérience et le renouveau. Ce lien avec un caractère mystique, mais aussi organique et physique. Au sein de l'Église, il s'agit de relations mutuelles, donc diriger et être dirigé, enseigner et être enseigné, qui sont, pour ainsi dire, naturelles et évidentes à l'époque. Son apostolat sportif, assez moderne à l'époque, il faut le dire, il a lancé à titre individuel en 1936. Il s'inscrit pleinement dans cette vision. Van Cleef n'était pas un religieux porté sur le sport. Lorsqu'il a lu dans le journal, la même année que les Jeux olympiques de Berlin, 1936, que les athlètes catholiques avaient la possibilité d'assister à des célébrations eucharistiques pendant les Jeux olympiques de Berlin. Il était d'abord opposé à cette, ce qu'il disait, fureur croissante pour le sport. Le fait qu'il parcourait lui-même à vélo les distances entre son domicile et les gares voisines n'était certainement pas, à ses yeux, une expression du sport, mais un moyen simple de transport. Une rencontre fortuite avec un coureur, cycliste, à vélo, en entraînement, lui fait comprendre que de nombreux sportifs, les cyclistes en tête, n'avaient aucun contact avec le clergé. Ce dernier, donc le clergé, ne cherchait pas à se rapprocher de ces hommes, ni à engager des conversations d'homme à homme. Les coureurs étaient considérés comme des sportifs ou des êtres humains vides, qui n'avaient pas besoin d'apostolat. Cela renforça le Norbertin dans sa conviction qu'il y avait là un terrain en friche pour l'Église et pour l'action. Après quelques autres conversations avec des coureurs, il décida de lancer une formation spirituelle pour cyclistes. Sa motivation venait du fait que ceux qui refusaient de reconnaître l'impact considérable que le sport exerçait quotidiennement sur de larges couches de la société fermaient les yeux sur la réalité. Selon Van Cleef, la question qui se posait aux catholiques et à l'Église était la suivante. Allons-nous laisser le sport à lui-même, avec toutes les dérives païennes, c'est dans le temps les années 30, hein, ce ne sont pas, mais bon, que peuvent entraîner la frénésie, l'enthousiasme, le fanatisme, etc., ou pouvons-nous enrichir le fair play de valeurs morales? Point interrogation. Les journaux intimes et la correspondance abondante du Norbertin conservée dans les archives de l'abbaye de Tongerlo constituent notre principale source d'information. Il s'agit d'une liste presque inépuisable de contacts personnels que Van Cleef a noués, soit spécifiquement pour son apostolat sportif, soit de manière fortuite entre ses activités principales pendant les semaines de mission intérieure ou de prédication. En 1943, donc, les sportifs ont exhorté Van Cleef à créer une sorte de comité afin de perpétuer l'apostolat sportif individuel qu'il a commencé en 1936. Mais on va le voir ici. Donc, les stratégies de Van Cleef sont d'abord, l'initiative devait venir des sportifs eux-mêmes, hein, donc bottom-up, après qu'il eut ouvert leur cœur à cette œuvre apostolique par quelques remarques pertinentes. Donc, en 1943, c'est ce que je viens de dire, c'est la création d'une comité nationale, et on voit bien ce que ça décrit, comité national pour l'élévation morale de tous les sportifs. Il y a 5 présidents provinciaux, un secrétaire et un trésorier, tout laïcs, et à cela s'ajoutait un aumônier en chef, Van Cleef lui-même, assisté de 2 aumôniers auxiliaires, un aumônier pour la partie néerlandophone, donc la Flandre, et un pour la partie francophone, donc la Wallonie et Bruxelles. En 1944, ce comité a été rebaptisé en Sporta, Sporta qui existe toujours en Belgique aujourd'hui. Donc c'est une forme abrégée d'apostolat sportif. Et ce que ce Vaclé va dire de Sporta, Sporta n'est pas une question de sport. Ce n'est pas en tant que sportif que je me suis rapproché des sportifs, mais en tant que prêtre, soucieux des âmes, je prêchais le corps mystique, à savoir que nous sommes tous frères les uns et les autres. Ce sont surtout, c'est toujours masculin, hein? C'est surtout les frères, il ne parle pas encore des sœurs, hein? C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Je me disais, ces garçons sont mes frères, ils ont une âme. Qui leur dit cela? Que fait-on pour cela? Sporta est une question de pastoral. Il s'agit d'apostolat dans un domaine particulier de la communauté, du salut des âmes d'un groupe particulier de personnes issues d'un milieu particulier, d'un groupe de personnes ayant une destination temporaire et éternelle. La deuxième stratégie appliquée par le père Van Plee consistait à entretenir ce qu'il faisait toujours des contacts personnels. Donc, il a fait ça, il a nourri ça auparavant, avant la guerre, dans les années 30, mais aussi après. Il recevait des individuels à l'abbaye de Tongerlo pour parler. Il organisait par exemple aussi des retraites en groupe dans tout le pays. Il allait en Flandre occidentale, orientale, à Anvers, en Wallonie, à Bruxelles, à Luxembourg, etc., pour faire des retraites avec les sportifs. Toujours dans des milieux où les sportifs n'ont presque jamais été auparavant, dans des couvents, dans des écoles catholiques, dans les cloîtres. Et il organisait aussi des pèlerinages, hein, donc en Flandre occidentale, à Montaigu, à Brabant, mais aussi à Chèvremont, donc dans la Wallonie. Donc ça, c'est sa deuxième stratégie. Et il y en dit, j'ai cherché à entrer en contact avec ceux, il y a un C qu'on doit, que je dois, avec ceux de manière très modeste. Et je l'ai toujours senti que les sportifs eux-mêmes souhaitaient être soutenus dans leur lutte pour leur vertu, la formation de leur caractère et de leur volonté. En d'autres termes, qu'ils aspiraient à la formation de leur âme. Et les sportifs disaient à lui, c'est exactement ce dont nous avons besoin, Père, une détente spirituelle, mais qui nous l'apporte? Vous devriez nous inviter plus souvent à discuter, cela fait tellement bien. Les autres, et ils le pointent aux étudiants, au mouvement de la jeunesse, ont tout, et nous, les sportifs, nous n'avons rien. Prêchez-nous une retraite, mon Père. Ici, tu vois encore ton clé en pleine action. Et avec Sporta, il veut aussi faire un programme de travail. Ça, c'est en 1944. Il a envoyé une lettre en janvier 1944. Et tu vois, il a déjà le public. Hein. Il a 700 sportifs actifs et 160 comités de clubs de toutes les branches sportive en Belgique. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut donc sur le plan intellectuel. Il a un objectif, il dit rechercher et de découvrir à travers l'étude et la lecture, de goûter à l'art et la beauté, d'apprendre à parler et à écrire sans faute et pour les Flamands, apprendre le français afin de pouvoir s'exprimer en dehors de la Flandre, parce qu'il y avait beaucoup de cyclistes qui étaient actifs en France, Tour de France, les classiques Paris-Roubaix, etc. Et ils voulaient qu'ils s'exprimeraient d'une façon civilement, hein, donc qu'ils pouvaient parler en français. Sur le plan moral, son programme, il voulait qu'il y avait la pureté, la force de caractère, la volonté et l'audace étaient primordiales. Mais aussi pour le plan familial, c'est très difficile, hein, être coureur ou sportif, être toujours à l'étranger, etc. Les thèmes mis sur les adolescents, l'engagement, le mariage, la relation entre mari et femme et l'équilibre entre la famille, l'école et l'église. Mais aussi, il y avait un volet de formation sociale avec l'accent sur l'honnêteté professionnelle, l'esprit sportif, l'amour du service et la fraternité. Et enfin, il y a aussi la formation religieuse qui ne voulait aucune différence entre la doctrine catholique et la vie quotidienne des sportifs. Il disait, vous pouvez être des saints dans l'entraînement et les soins du corps, dans le sprint et le demi-fond, dans la boxe et dans la lutte. Votre travail peut être votre prière la plus pure et vos malheurs et vos efforts bénis, vos sacrifices les plus glorieux pour Dieu et les âmes de vos proches. Troisième stratégie, c'est que Van Clay voulait aussi expander ses méthodes pastorales en contact avec, par exemple, un bloc géographique composé de la Flandre, le sud des Pays-Bas et la Rhénanie. À cette fin, il souhaitait concrétiser le contact, donc, lors de réunions organisées au moins tous les 2 mois. Et on voit dans les correspondances qu'il y a des contacts à l'abbaye de Tongerlo, mais aussi en Allemagne, à Cologne, mais aussi aux Pays-Bas. Et un de ces contacts, et il aura toujours contact avec lui, était Monseigneur Boymans, malgré qu'ils avaient toute une autre approche selon comment on doit faire l'apostolat. Hein. Donc Van Clay, il a toujours voulu être loin des évêques, je m'excuse, mais il disait, il faut un apostolat qui n'a rien à faire avec l'action catholique. Il faut être libre comme laïque et pas être sous le joug des évêques ou des aumôniers qui disent tout. Et il voulait aussi agir dans le monde sportif neutre, pas dans un monde fermé sur soi. Et ça, c'est autre chose qui existait au même temps aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'était justement le contraire. C'était les évêques qui décidaient tout, et avec ce Monseigneur Boymans qui était à Roermonde, mais qui va être aussi le chef aumônier national du sport catholique aux Pays-Bas. Donc ça, c'est une grosse différence, mais ils ont de bons liens. En Allemagne, par exemple, il a aussi des contacts avec un certain Clemens Wild, qui était au Cologne, mais Cologne était toujours naturellement reparti par des armées, hein, après la guerre mondiale, donc c'était pas encore libre l'Allemagne, mais c'est là où va naître naturellement une grande coopération œcuménique déjà des années 50, Schwerbund, les églises protestantes et l'église catholique. Et c'est toujours le cas. Il y a tous les grands idée du Vatican, du Saint-Siège concernant le sport, donc de 2018-2022, s'est inspiré par les Allemands, donc avec entre autres Monseigneur Clemens qui a toujours voulu un grand document sur le sport. Et c'est à partir de cela qu'il y avait un groupe de recherche en 2018, et j'y faisais partie, à faire le premier document. Donner le meilleur de soi-même. Donc, mais ça a débuté dans les années 70-80 en Allemagne. Donc, ça un peu pour l'histoire. OK? Ça, c'est Boymans en Hollande. Oui. Mais naturellement, Van Cleef va mourir assez comme ça, dans la gare de Midi à Bruxelles. Et naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'abbaye de Tomerlo dit, et le père abbé dit, oui, on va encore s'engager dans l'apostolat du sport. Il y a un nouveau prémontré du nom Bruno Morel qui va être le aumônier général, le chef de 1957 jusqu'à 1966. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va naturellement continuer le travail commencé par Van Cleef, mais il va faire expandre le réseau des aumôniers. Il dit, mon rêve est d'avoir 30 pères de Van Cleef. Comme ça, on peut vraiment faire quelque chose en Belgique. Donc, il y a un aumônier général, quatre aumôniers provinciaux en Flandre, nombreux aumôniers régionaux et un aumônier provincial en Wallonie. Ça, c'est le réseau de l'apostolat dans ce temps-là, en 58 jusqu'à 66. Et ici, ça, c'est Morel qui dit, je crois vraiment à la méthode des dizaines de pères de Van Cleef que nous envoyons aux sportifs. Je crois en nos pèlerinages provinciaux et nationaux de sportifs. J'espère donc que les masses cesseront de considérer Sporta comme une œuvre philanthropique s'occupant des sportifs à l'instar de la Société pour la protection des animaux. J'espère que Sporta sera considéré comme un organisme socialement nécessaire et je rêve que nous célébrions chaque année une grande journée Sporta, de préférence, et c'était avant Vatican II, naturellement, le dimanche de la Septuagésime en février, une journée où l'athlète plongerait dans l'âme saine de son corps saint. Tu vois, ça va toujours ensemble, donc, comme le monseigneur a dit au début de ce congrès. Mais il y a une deuxième chose que ce Morel va réaliser, et ça existe toujours, c'est réalisé en 1963, c'est Sporta Centre à côté de l'abbaye de Tomerlo. C'est donc une collaboration entre l'abbaye et Sporta. C'est une stratégie d'impliquer tout le monde, donc pas seulement les professionnels, mais tout le monde dans le sport à travers la jeunesse. Et c'est un peu parallèle à la deuxième mouvement du sport qu'on a connu en Allemagne. Donc il y a les liens, on va s'inspirer l'un de l'autre. Et c'est quoi? C'est meubler, équiper, entretenir et fournir des terrains de sport, de jeux et de bivouac avec des bâtiments, les installations, les équipements associés pour l'entraînement à la pratique du sport, des jeux et de la vie en plein air, au profit des animateurs sportifs, des associations sportives, des groupes de jeunes et des personnes intéressées qui souhaitaient pratiquer et ou animer activement des sports, des jeux et la vie en plein air. Et ici, tu vois une photo en air et ça existe toujours à Tomerlo. Mais c'est là, et on va voir à la fin, c'est là, oui, c'est là. Donc, troisième, après Morel, il y a le père qui est toujours officiellement le chef aumônier de Sporta. Il a 83 ans maintenant, 93 ans, excuse-moi. Mais il n'est plus à la rue, il est dans un hôpital, un homme. Oui. Et là, tu vois, il commence en 1966. Donc le contexte, c'est Vatican II. Et il va naturellement impliquer les choses de Vatican II dans l'aumônerie, dans le sport. Donc, il a seulement 33 ans à cette époque. Et il donna immédiatement un nouveau ton. Il s'agissait véritablement d'un changement de garde, donc marqué par le contexte de la Concile Vatican II. Et, un peu dans l'esprit de Vatican II, va chercher l'esprit de ton fondateur. Il fait la même chose avec Sporta et il voit les découvertes aux archives de Van Cleef. que Sporta n'était pas le travail d'un prêtre aumônier, même s'il devait y être présent, mais c'est les laïcs qui étaient Sporta. Donc, alors, on pourrait se demander, et à quoi se sert encore un aumônier, hein? Mais il y a naturellement des documents, des assemblées, des réunions, et il y a une triple tâche encore pour les aumôniers de Sporta. Et d'abord, c'est la pastorale. D'abord, la proclamation et aussi la liturgie. La pastorale du sport. Et ça, il y a des discussions hein, dans les archives. Il faut savoir quand tu dis qu'un aumônier, oui, ce sont les laïcs qui doivent le faire, mais la pastorale d'un aumônier, Sporta, on doit le considérer d'abord comme une pastorale catégorielle qui ne devait pas entrer en conflit avec la pastorale paroissiale ordinaire, mais être complémentaire. Le problème était que cette pastorale devait être reconnue et acceptée comme telle, ce qui n'était pas le cas des autorités épiscopales à ce temps-là, ni du clergé en général. Pour faire respecter cela, les aumôniers Sporta eux-mêmes devaient prendre leur pastorale à cœur. Il fallait une coopération mutuelle et une coopération avec les aumôniers principaux. Il fallait établir des contacts allant de visites occasionnelles à domicile à des relations personnelles avec les sportifs. En outre, il fallait sensibiliser les autres prêtres, en premier lieu tous ceux qui étaient intéressés par le sport, mais aussi les autres à l'apostolat sportif. Travailler par le biais des doyennés semblait être une stratégie possible à cet égard. Enfin, il fallait faire comprendre à l'autorité épiscopale et à tous les supérieurs des ordres et congrégations l'importance sociale du sport. Ce dernier point n'était pas facile car l'Église en général n'était, en 1966, toujours pas ou en pas encore consciente que le sport était devenu une superpuissance de nombreux pays. Le dernier concile, et je cite le père, le dernier concile du Vatican n'a mentionné le thème du sport qu'une seule fois, hein, comme le monseigneur l'a déjà dit cet après-midi dans Gaudium et Spes. Et selon les aumôniers du sport, la plupart des évêques belges ne savaient pas ce que c'était Sporta. Ils ne connaissaient pas ses activités, ni ce que faisaient les apôtres. Il en allait de même pour les supérieurs des ordres et des congrégations et même pour les aumôniers des associations sportives catholiques. Donc, ils étaient tout à part. Et ça était un grand problème pour Sporta. Mais aussi la proclamation, je ne vais pas aller en détail, la proclamation, comment. Il y a des magazines, oui, donc des petites feuilles, non, en bas, en haut, c'est tout. En arrière, je m'excuse, c'est moi. Oui, donc la prolongation. Donc il faut aussi parler de ce qu'on veut dans nos propres feuilles, dans nos propres magazines, ils disent. Donc, ça doit être imprégné de la spiritualité, pas sur les choses techniques du sport. Quand tu parles seulement des choses techniques du sport et dans les choses mécaniques, comme vous venez de dire, Monseigneur, il n'y a pas de spiritualité dans l'enceinte de notre organisation. Donc, il faut parler des valeurs défendues par Sporta. Et aussi la liturgie. Comment faire la liturgie? Eh bien, par des célébrations eucharistiques spéciales. Pendant des compétitions, et en Belgique, on voit par exemple sur les pistes des 6 jours de Gand, il y a les dominicains qui font la messe. On ne voit naturellement plus cela. Avant le championnat du monde du cyclisme, il y avait une messe donc, avec tous les spectateurs. Et ici, j'ai une belle photo, avant une compétition de motocross, il y a là, et tu le vois en blanc, il y a un dominicain qui va parler avec les athlètes et qui bénigne donc les motos. Tu vois, tout semble très loin de notre temps aujourd'hui. Ok. Je vais un peu sauter la chronologie pour ne pas trop parler. Hein. Et je vais maintenant raconter un peu comment, donc en 66, il commence, le père, le dernier père, donc aumônier, il a de bonnes idées, il dit ce sont les laïcs, Sporta, mais il y a un équilibre très difficile entre laïcs, est-ce qu'ils sont encore assez chrétiens, et ça va encore devenir plus difficile dans les années 90. Et c'est ça toute la question, il y a un grand document des aumôniers de Sporta, de 10 pages, et dans quelle mesure Sporta est-elle encore chrétienne? Est-ce que c'est la fin de l'engagement prémontré dans l'apostolat sportif? Et on se demande ça. Est-ce qu'on va encore continuer avec ça? Et ils disent aussi, par exemple, si Sporta se qualifie de chrétienne, les valeurs évangéliques devraient occuper une place centrale dans toutes les manifestations. Sporta trouve ses racines dans un mouvement évangélique. Que pouvons-nous et devons-nous demander au personnel? Une charte morale a-t-elle un sens? Qui peut être considéré comme le gardien de l'esprit Sporta? Ce sens chrétien des valeurs doit devenir une idée partagée dans l'ensemble du travail de Sporta. Ce n'est pas seulement à l'aumônier de propager cette conscience. Comment les idées chrétiennes se concrétisent-elles? Aucune formation n'est-elle nécessaire à cet égard, même au sein du personnel du Sporta? Donc, les aumôniers sont vraiment inquiets et espèrent que cela n'arrivera jamais, mais aujourd'hui, en 2025, c'est le cas, et c'est déjà le cas de 2017. Hein. Donc, les aumôniers de Sporta espèrent que l'administration de l'ABI continuera à reconnaître l'importance du Sporta Center pour le secteur des loisirs en pleine expansion. Mais en Belgique, la situation est tellement que même les Norbertins et l'abbaye de Tongerlo, c'est une grande question. Est-ce qu'ils vont rester dans l'abbaye ou pas? Et tu vois, il y a une double crise. Donc Sporta qui ne sait plus qu'ils sont issus d'une idée chrétienne et l'abbaye qui n'a plus de aumônier à offrir. Donc ça c'est... Et on va maintenant conclure. En Belgique, la situation de la pastorale du sport semble moribonde malgré une riche passée. Seulement au diocèse de Bruges, on a encore un diacre responsable pour les sportifs. Au sein de la communauté de l'abbaye de Tongerlo, le vieillissement et le décès des aumôniers engagés posent problème. Le renouvellement et le rajeunissement ne semblent pas des options et on parle même que la communauté quittera dans quelques années le site de Tongerlo. La question reste ouverte de savoir si 2017 sera considéré dans l'histoire comme l'année de la fin de l'engagement actif de l'abbaye de Tongerlo par l'intermédiaire de ses aumôniers prémontrés dans l'apostolat sportif Sporta. Espérons que cette crise de Tongerlo et aux divers diocèses belges puissent marquer un tournant vers un nouvel engagement au sein des diverses instances de l'Église belge, que ce soit dans un contexte diocésain ou régulier. Peut-être elle pourrait se laisser inspirer, à côté de l'histoire des activités pastorales des Norbertins, par la personne du père Pascal Girard et par la Conférence des évêques de France et au contexte des Holy Games. Car le monde du sport est aujourd'hui plus que jamais un terrain d'évangélisation. Je vous remercie.